Bonjour Monseigneur.
Bonjour Laurence.
En ce début d'année, tout d'abord, bonne année.
Monseigneur. Bonne année Laurence, bonne année à tous les auditeurs de Radio Ecclésia.
Alors il y a encore peu de temps, nous venons de fêter Noël, fête de l'incarnation de Dieu devenu petit enfant. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur ce mystère de l'incarnation ?
Oui, alors c'est vrai que là on est encore quelques jours, quelques semaines après Noël, mais c'est intéressant d'y revenir. Parce que Noël fait partie des fêtes centrales du christianisme. Il y a deux fêtes centrales, hein. Il y a la fête de Noël et puis il y a la fête de Pâques. C'est un petit peu comme les deux points centraux d'une ellipse. Et donc ce mystère de ce que vous appelez l'incarnation, donc le mystère de Noël, il est vraiment au centre de notre foi avec la résurrection. C'est important de bien comprendre le poids, disons l'importance de cette fête, parce que on a un petit peu... Je le dis avec des guillemets, mais on a un tout petit peu infantilisé la fête de Noël. C'est-à-dire qu'on a fait une fête des enfants. Et c'est vrai que, autour de la crèche, il y a la Sainte Famille, le Christ est là. Les enfants, vous voyez, pour eux, c'est très visible, Noël. Hein, ils sont ébahis devant la crèche, puis alors ensuite, il y a les fêtes, il y a les cadeaux, etc. Bon. Tout cela n'enlève rien, justement, à la merveille que peut vivre un enfant au moment de Noël. Mais c'est plus que ça. Hein. C'est la fête, de l'incarnation du Seigneur descendu dans les ténèbres de notre humanité. Pourquoi est-ce qu'on va à la messe le soir ou la nuit? Pourquoi la messe est à minuit dans beaucoup d'églises? Parce que, justement, par la liturgie, nous montrons que nous nous réveillons dans la nuit. Ou en tout cas nous levons dans la nuit, nous affrontons le froid, souvent en décembre il fait froid, pour aller à la messe avec le Christ et témoigner justement que le Christ est venu dans les ténèbres de notre humanité. Et ces ténèbres, elles apparaissent dès la naissance du Christ à Bethléem. On peut dire que l'ombre de la croix, elle plane déjà sur la crèche. Hein. La Sainte Famille n'est pas accueillie. Ensuite, il y a le massacre des assassins innocents. Ils doivent fuir. Enfin, c'est dans une ambiance qui n'est pas une ambiance de vie d'enfant. C'est un début très difficile. Hein. Le Verbe de Dieu, le Fils de Dieu vient, il prend la nature humaine. Et dans les moments de Noël, voilà ce que nous fêtons, cet incroyable événement par lequel Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, prend la nature humaine et vient sous la forme déjà de ce petit enfant emmailloté dans une mangeoire. Emmailloté, vous voyez, c'est très fort parce qu'il ne peut plus rien faire. Et puis, couché dans une mangeoire, il est vraiment plus bas que terre, si je puis dire. Une grande pauvreté. Et c'est ça que nous avons fêté à Noël.
Dans l'iconographie, on voit d'ailleurs certaines icônes parfois où l'enfant Jésus est dans un cercueil, d'ailleurs, dans un cercueil.
Ah oui, ça, j'avais jamais vu ça. Je sais qu'à Chartres, il est représenté sur un autel, dans la vitrail de Chartres, c'est-à-dire il est déjà offert. Il est venu pour s'offrir. Et du coup, ça nous fait comprendre que derrière le mystère de l'incarnation, il y a la question du salut. Hein. Qui est-ce qui nous a sauvés? Jésus vient pour nous sauver, vient pour offrir sa vie, vient pour nous réconcilier avec son Père, vient pour porter le poids de nos péchés. Et c'est pour ça aussi qu'il y a cette gravité dans le mystère de l'incarnation, parce qu'il y a déjà le mystère de Pâques qui est présent. Et c'est très important de bien comprendre pourquoi est-ce que nous confessons que Jésus est Dieu, parce que qui nous a sauvés? Si Jésus est fils de Dieu, s'il a vraiment pris la condition humaine, en étant de condition divine, alors nous sommes sauvés par Dieu lui-même. Dans le credo, nous disons que le Fils est consubstantiel au Père, eh bien, ça veut dire que c'est vraiment Dieu qui nous a sauvés. C'est-à-dire que le Père n'a pas envoyé un homme aussi grand fut-il pour nous sauver, mais il est venu lui-même. Ça c'est la radicalité de l'amour de Dieu pour nous. C'est lui qui est venu, non pas en envoyant un héros ou bien un ange, mais en se donnant lui-même, pour notre salut, pour nous les hommes et pour notre salut.
Alors justement, dans ce mot incarnation, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu plus d'éléments sur l'origine de ce mot? D'où vient-il?
Ça vient du mot chair, tout simplement. C'est qu'il a pris chair, une chair humaine. Et alors, on dit il s'est fait homme, et c'est vrai, il s'est fait homme, mais dans le credo de Nicée, on dit incarnatus est, ça veut dire qu'il s'est fait chair. Parce que le mot chair est utilisé par l'apôtre Saint Jean dans l'Évangile pour dire justement la condition humaine, mais la condition humaine aussi dans sa fragilité, dans ce qu'elle peut avoir de... Vous voyez, la chair, on voit bien comment C'est à travers notre chair que nous sommes blessés, que nous nous faisons mal, que même on peut tout simplement se faire mal aux doigts, vous voyez. Donc ça fait référence, vous voyez, à la fragilité, même à la précarité de notre existence. Et quand on dit qu'il s'est fait chair, les pères de Nicée voulaient dire quelque chose de plus qu'il s'est fait homme. Voilà. Il a pris chair de la Vierge Marie. Et dans la chair, selon saint Jean, il y a une idée de faiblesse, de fragilité humaine. Et donc les pères ont repris ça du prologue de saint Jean.
Alors, on a fêté récemment le concile de Nicée. Pourquoi on en a tant parlé, finalement, de ce concile de Nicée ?
Alors, on en a parlé en 2025 parce que ce concile a eu lieu en 325. Et donc, il y a 1700 ans. Et on a voulu célébrer. Donc, le pape a été sur le lieu même de Nicée avec le patriarche de Constantinople, Bartholoméos, justement, pour fêter cela. Mais il y a eu en France beaucoup de sessions, de colloques, des livres aussi, pour essayer d'approfondir. À Nîmes également, il y a eu une très bonne après-midi de travail avec les protestants, les orthodoxes et les catholiques, avec des conférences pour essayer de mieux comprendre ce qu'a été Nicée. Nicée, au fond, c'est le premier concile qu'on appelle œcuménique. L'œcuménée, c'est le monde connu à l'époque. Mmh. C'est-à-dire qu'on a appelé tous les évêques qui pouvaient venir, tous les évêques vous voyez, chrétiens, hein, qui pouvaient venir à Nicée. Ils ne sont pas tous venus, il y a eu beaucoup d'orientaux qui sont venus. Il faut dire que Nicée, c'est en Turquie, dans la Turquie actuelle. Donc vous voyez, les évêques gaulois, ils avaient du mal à venir, si je puis dire. Bon, mais tous ceux qui ont pu venir. Mais ensuite, œcuménique, ça veut dire aussi que les décisions prises à Nicée, elles se sont étendues à tout le monde. L'œcuménée, c'est ça, hein, à tout le monde connu, et donc à toute l'Église. Et donc, premier concile œcuménique, parce que Arius, le prêtre Arius, à cette époque, avait mis en doute la divinité de Jésus en disant, si on veut préserver le monothéisme à tout prix, eh bien, Jésus ne peut pas être Dieu, parce que ça fait deux dieux, en gros. Hein. Oui. Il disait, Jésus-Christ est un homme suréminent, envoyé par Dieu, c'est une créature. Et donc, il a été créé par Dieu, il n'est pas le Fils éternel dans l'éternité. Et donc, il a été envoyé. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, vous voyez, au sujet du salut, ça veut dire que les pères de Nicée, les évêques de Nicée, qui étaient rassemblés à Nicée, ont voulu vraiment confesser la divinité de Jésus-Christ, en disant, oui, il est vraiment Dieu. Dieu né de Dieu, lumière né de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu. Et ils ont voulu vraiment affirmer cela en disant, parce que si c'est pas Dieu, ça veut dire que Dieu s'est pas engagé dans notre histoire pour venir nous sauver. Or, nous, la grande originalité de notre foi, si je puis dire, c'est que Dieu n'est pas resté dans son ciel, si vous me permettez cette expression, ouais, mais qu'il est descendu au milieu de nous et qu'il a pris chair de notre chair. Et jusqu'à la mort, il a connu la mort pour venir justement nous attirer à lui et nous remettre en communion avec lui, nous attirer et nous faire participer à sa vie divine. Et donc le prêtre Arius avait du succès avec cette théorie en disant, au fond, on ne peut pas dire que Jésus soit Dieu. Et donc on s'est dit, mais comment on va faire ? Eh bien, donc on a réuni, c'est l'empereur de l'époque, Constantin, qui a voulu réunir les évêques en disant, il faut trouver une solution. Et donc les évêques se sont réunis et ont fait ce concile, ce premier concile. Il y en a eu d'autres après. Et ce qui est intéressant du point de vue alors œcuménique, c'est-à-dire du dialogue à l'intérieur de la foi chrétienne, c'est que quand on revient, parce qu'à l'époque, donc les auditeurs comprennent qu'à l'époque, il n'y avait pas de protestants opposés aux catholiques, mais il n'y avait pas non plus d'orthodoxes, hein, parce que la séparation avec les orthodoxes, si je puis dire, avec l'Église d'Orient, c'est 1054. Et Luther, c'est 1520. Donc, en 325, il n'y avait pas toutes ces différences. Alors, ce qui est intéressant, c'est que nous confessons le même credo avec les orthodoxes actuels et puis avec les protestants, avec les évangéliques. Alors ce qui est intéressant, c'est justement ce qu'on a fait cette année, c'est de se retrouver, de parler de ce premier concile qui disait le cœur de notre foi, nous croyons en Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. C'est ça qui a été intéressant en 2025, c'est de constater que le cœur de notre foi est le même.
Vrai Dieu et vrai homme.
Vrai Dieu et vrai homme.
Alors il y a aussi alors la suite, hein, engendrer non pas créer, de même nature que le Père. Donc il y a aussi la question de l'engendrement.
Oui, alors engendrer non pas créer, vous l'avez dit, mais c'est consubstantiel au Père. C'est-à-dire de même nature que le Père, ça c'était l'ancienne version. Il y a quelques années, nous avons introduit dans le credo la traduction française, parce que la traduction latine était bonne, mais on a insisté sur le fait que si on dit de même nature, c'est vrai, vous avez tout à fait raison, Jésus, Christ, est vrai Dieu, et donc il est de même nature que le Père, mais il faut ajouter que pour nous, il est de même substance, parce que, vous voyez, Laurence, vous et moi, on est de même nature tous les deux, mais on n'est pas de la même substance. Voilà, et chacun, nous sommes une substance différente. Or, si nous voulons sauvegarder le monothéisme, le fait que nous croyons en un Dieu et non pas trois dieux, il faut dire que non seulement Jésus est de même nature, mais il faut dire qu'il est de même substance, il n'y a qu'un seul Dieu. Quand on dit engendré, non pas créé, ça veut dire que non, Jésus-Christ n'est pas une créature. Voilà. Il est engendré de toute éternité par le Père engendre le Fils, et le Fils se reçoit du Père, mais il y a une différence entre l'engendrement et la création. La création, c'est réservé, disons, aux créatures que nous sommes, parce que Arius disait, il y a un temps où le Fils n'était pas, alors que nous, nous disons qu'il a existé de toute éternité, puisqu'il est Dieu.
Quand on dit engendré, encore une petite différence là, c'est-à-dire que le Christ, le Fils, était déjà là avant de venir sur Terre. C'est ça un peu, hein.
Oui, c'est ça. Il est éternel.
Il est venu sur Terre. Il est né de la Vierge Marie, mais il était déjà créé.
Voilà.
C'est ça.
Et il n'était pas créé. Il était engendré.
Déjà engendré. Voilà.
Et voilà, c'est exactement.
Alors, quelque chose aussi de très beau, c'est les parents. Bon, alors moi, je suis maman, alors je me sens aussi concernée. Les parents, ils engendrent aussi. Ils ne créent pas. C'est Dieu, hein, le créateur. Et on le voit quand on est parent et qu'on s'émerveille devant un bébé. On se dit, bon, il est sorti de moi, mais bon, j'ai été un instrument. C'est ça aussi qui est très beau, finalement, dans notre humanité. C'est ce lien de l'engendrement aussi des parents.
Oui, vous avez raison. Quand on pense à quelque chose de neuf, on se dit, au fond, comment cette chose a été imaginée, a été produite. Bon, alors, vous voyez, par exemple, un artisan, il fabrique une table. Bon, un artiste, il crée une œuvre. Il y a déjà une différence, hein, entre fabriquer par un artisan et puis l'artiste qui conçoit son œuvre dans sa tête et puis finalement qui la sort de ses mains. Bon. Mais il y a un autre modèle, hein, qui est le modèle de l'engendrement. Au fond, les parents ne fabriquent pas leur enfant et les parents ne créent pas leur enfant. Oui, c'est sur ce modèle de l'engendrement qui a été pensé, parce qu'il fallait bien dire, enfin, vous voyez, utiliser des mots pour dire la foi chrétienne.
Exactement, et sur cet engendrement, il y a une partie de l'intervention de Dieu.
Oui, exactement, oui.
De paternité divine.
Alors, Arius, il ne savait pas utiliser le mot d'engendrement parce qu'il le concevait de manière trop physique, hein, comme un homme et une femme qui engendrent leur enfant. Et l'audace de Nicée, ça a été d'affirmer que l'engendrement, c'est d'abord un acte divin. Et que l'engendrement humain n'a été qu'une analogie, hein, ou une image déficiente, disons. Mais la paternité, elle est d'abord divine. Et alors, comment est-ce qu'on pourrait résumer, hein ? On pourrait dire que créer, c'est faire exister un autre que soi, mais que engendrer, c'est faire exister un autre soi-même, dans la différence. Et donc, de toute éternité, le Père engendre le Fils. Et par contre, dans le temps, il crée ce qui existe. Il y a l'engendrement du Fils, puis il y a la création des créatures. Et c'est pour ça qu'on peut dire aussi que les parents ne fabriquent pas leurs enfants, ils ne les créent pas non plus, ils les engendrent.
Alors, comment expliquer toutes ces hérésies, toutes ces doutes aussi sur, et cette remise en question de cette nature divine du Christ et cette nature humaine du Christ ?
C'est-à-dire que c'est normal que la raison se rebelle devant l'affirmation centrale du Concile de Nicée, le Verbe de Dieu a partagé notre condition humaine. C'est très compliqué à comprendre, de dire qu'il est vraiment Dieu et qu'il n'est pas seulement un homme suréminent, comme le disait Arius. Comment comprendre avec notre raison que Dieu a assumé tout ce que nous sommes pour que nous ayons part à ce qu'il est ? C'est compliqué. Vous savez, les Visigoths, ils étaient c'était des barbares convertis au christianisme, mais ils étaient ariens. Vous voyez, pour des populations pour lesquelles la force physique, la force humaine est extrêmement importante, comment comprendre que Dieu a accepté de mourir sur une croix, dans un échec complet ? Et donc c'est plus facile, par exemple, de dire que Jésus n'était qu'un homme, parce qu'on n'imagine pas comment un Dieu, vous voyez, peut finir de cette manière. Et donc il y a quelque chose de très humain à se rebeller contre le fait que Jésus-Christ soit vraiment Dieu. C'est pour ça qu'on a eu des doutes assez vite sur la possibilité d'unir dans le Christ à la fois l'homme et Dieu. Et donc, le problème, c'était de comprendre la foi professée par l'Église, alors qu'on avait assez peu de mots pour le dire. Donc, il y a eu des courants de pensée. Par exemple, le docétisme. Hein, le docétisme, ça vient d'un verbe grec, dokein, qui veut dire sembler, et qui niait l'incarnation du Christ. Hein. On disait, au fond, Dieu a simplement revêtu une apparence humaine, d'où le verbe dokein. Il y a eu plusieurs courants de pensée, par exemple la gnose. Hein. La gnose, ça veut dire la connaissance. Hein, où on disait, au fond, la création, c'est l'œuvre d'un esprit du mal. L'homme ne pourra se sauver qu'en libérant son être spirituel du monde créé et de la matière. Et donc, il ne peut venir rien de bon de la matière. Donc, on ne peut pas, si vous voulez, imaginer que Dieu soit venu dans la matière, qu'est la chair, justement. Mmh. C'est pour ça, d'ailleurs, que saint Jean dit, dans la première lettre, ce qui était depuis le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons contemplé de nos yeux, ce que nous avons vu et que nos mains ont touché, c'est le Verbe, la parole de vie. Ça veut dire qu'il dit, non, mais dans la matière, il y avait bien le verbe, la parole de vie qui était là présente. Vous voyez, il insiste en disant ce que nos mains ont touché, ce que nos yeux ont vu, hein, pour montrer la réalité de l'incarnation. Les lettres de saint Jean, elles s'expliquent comme ça. Il dit aussi, mes bien-aimés, ne croyez pas n'importe quel inspiré, mais examinez les inspirations pour voir si elles viennent de Dieu, car beaucoup de faux prophètes se sont répandus dans le monde. Et alors il ajoute, voici comment vous saurez si l'Esprit de Dieu les inspire. Tout inspiré qui proclame que Jésus-Christ est venu parmi nous dans la chair, celui-là appartient à Dieu. Donc vous voyez, saint Jean, il donne, disons, ce critère de discernement. Il faut croire que Jésus est Dieu venu dans la chair. Mmh. Et voilà pourquoi il ajoute ensuite dans la deuxième lettre, beaucoup d'imposteurs se sont répandus dans le monde, eux qui ne professent pas la foi en Jésus-Christ venu dans la chair. Celui qui agit ainsi, c'est l'imposteur et l'antichrist. Voilà. Alors, ça n'a pas empêché ensuite d'avoir d'autres courants, disons, théologiques, qui ont essayé de trouver une solution parce qu'ils n'arrivaient pas à, vous voyez, à mettre ensemble la divinité et l'humanité. Mmh. Hein, voilà, il y a eu des courants de pensée et c'est comme ça qu'on est arrivé à Arius et en particulier au Concile de Nicée pour vraiment confesser que le Christ est engendré, non pas créé, comme j'ai expliqué, et de même substance que le Père. Il fallait un concile, vous voyez, pour redire cela et pour confesser la foi chrétienne. Et c'est beau, c'est que ça fait, vous voyez, 1700 ans que nous professons ce credo. Hein. C'est pour ça que c'est si important de le dire à la messe, parce qu'on dit un texte qui a 1700 ans, qui ne dit pas tout de la foi chrétienne. Par exemple, dans le credo, on ne parle pas de l'Eucharistie. Mais c'est un symbole, on appelle ça un symbole, ça veut dire que c'est un signe qui nous relie les uns aux autres, de reconnaissance entre les chrétiens. Ben oui, on n'a pas tous les mêmes idées quand on est chrétien dans une église de dimanche. Vous voyez, on n'a pas la même personnalité, on peut même être de cultures différentes, mais on dit tous ce credo. Je ne sais pas si vous avez été à l'étranger à la messe. Je suppose que oui. Le fait que si on va en Italie, si on va, je ne sais pas, aux États-Unis, si on va au Brésil ou si on va en Corée et qu'on va à une messe, on dit ce même credo. C'est magnifique. Et c'est de cette manière qu'en 325, l'Église réunie à travers les évêques a voulu confesser sa foi. Ce qui s'est passé, c'est que dans les débats avec Arius ou avec tous ceux qui ont contesté, disons, la foi chrétienne, on prenait l'Écriture. Et puis, on opposait les textes les uns aux autres. Alors ça, c'était compliqué, hein, parce que c'est vrai qu'on s'appuyait sur l'Écriture, mais il y a un moment où on est tombé dans une impasse. Il fallait qu'on trouve des mots, disons, de la philosophie pour s'expliquer, parce que les textes de l'Écriture ne suffisaient pas et on pouvait les imposer les uns aux autres. Oui. Et donc, il a fallu prendre des termes, disons, un langage qui venait de la philosophie grecque, comme la substance, par exemple, ou la nature, pour expliquer ce qu'on voulait dire.
Ce mystère de l'incarnation, comment peut-il nous rejoindre? Qu'est-ce qu'il dit aussi de notre relation à Dieu?
Ça, c'est la question centrale, parce que nous savons que Dieu vient dans notre humanité, hein, et qu'il connaît notre humanité. Les pères de l'Église, donc les premiers théologiens, ils disaient ce qui n'a pas été assumé n'a pas été racheté. Mmh. Donc si nous voulons être sauvés, il fallait que justement Dieu vienne et puis partage notre humanité jusqu'à la mort, jusqu'à connaître la mort, et donc partage nos épreuves, partage nos émotions, partage notre vie concrète. Hein. On voit Jésus pleurer dans l'Évangile lorsque Lazare est mort. On le voit avoir faim.
se mettre en colère.
Il est présent et il partage notre humanité. Mmh. Et donc, ça veut dire que dans toutes les situations de notre vie concrète, en fait, le Christ, là, il est présent. Il n'a pas regardé ça de haut, mais il est venu et il vient nous donner sa grâce, il vient nous donner son Esprit Saint. Et donc, nous sentons rejoints. Il n'y a aucune situation humaine où nous ne pouvons pas croire que le Seigneur est là présent. Mmh. Et donc, Dieu s'intéresse à nous. Mmh. Nous avons un intérêt pour Dieu et il nous aime d'un amour de tendresse et de miséricorde. Il est là présent pour nous et il nous rejoint. Quand Jésus guérit les malades, quand Jésus libère aussi les possédés, il vient dans notre humanité, aussi blessée soit-elle, aussi défigurée soit-elle, et il vient poser son regard de tendresse, de miséricorde, et nous donner accès au Père. Et ça, c'est le salut. Donc le salut, ça veut dire que Jésus nous remet devant notre vocation, notre vocation profonde, celle de nous unir à Dieu. Et donc, par ce mystère de Noël, nous savons que le Seigneur est avec nous. Et donc, encore une fois, je le dis aux auditeurs, il n'y a aucune situation où Dieu n'a pas envie d'être présent avec nous à partir du moment où nous lui ouvrons la porte. Et même si on a l'impression que tout est fini, que notre vie n'a plus de sens, en fait, le Seigneur est là, il nous regarde, il nous aime. Et voilà, je pense, le sens le plus profond de l'incarnation.
C'est l'espérance.
C'est notre espérance, oui, que le Seigneur est là et qu'il nous conduit à la vie éternelle.
Merci, Monseigneur.
Merci, Laurence.